que j'avais comme esquissé, qui était un problème comme ça. Ce problème des vitesses de la pensée et de l'importance de ces vitesses chez Spinoza, du point de vue de Spinoza lui-même. Et je disais, après tout, l'intuition intellectuelle, ce que Spinoza présentera comme l'intuition du troisième genre de connaissance, c'est bien une espèce de pensée comme éclair. C'est bien une pensée à vitesse absolue, c'est-à-dire qui va à la fois le plus profond et qui embrasse, qui a une amplitude maximum, et qui procède comme en un éclair. Il y a un assez beau livre de Romain Rolland qui s'appelle « L'éclair de Spinoza ». Très bien écrit.
Très bien.
Ouais. Or, je disais, quand vous lirez l'éthique, ou quand vous la relirez, il faut que vous soyez sensible, au moins que vous pensiez à cette question que je pose uniquement, à savoir, il me semble bien, je disais la dernière fois, que le livre 5 procède autrement. C'est-à-dire que dans le dernier livre de l'éthique, et surtout à partir d'un certain moment que Spinoza signale lui-même, le moment où il prétend entrer dans le troisième genre de connaissance, les démonstrations n'ont plus du tout le même schéma que dans les autres livres, parce que dans les autres livres, les démonstrations étaient et se développaient sous le second genre de connaissance. Mais quand il accède au troisième genre, ou à une exposition d'après le troisième genre de connaissance, le mode démonstratif change. Les démonstrations subissent des contractions. Il y a toutes sortes, il y a des pans de démonstration qui, à mon avis, ont disparu. Tout est contracté. Tout va à toute allure. Bon, c'est possible. Mais ça, ce n'est qu'une différence de vitesse entre le livre 5 et les autres. La vitesse absolue du troisième genre, c'est-à-dire du livre 5, par différence aux vitesses relatives des quatre premiers livres. Je disais aussi autre chose la dernière fois. Si je m'installe maintenant dans le domaine des vitesses relatives de la pensée, une pensée qui va plus ou moins vite, je m'explique, vous comprenez ce problème, j'y tiens parce que c'est une espèce de problème pratique. Je ne veux pas dire qu'il faille mettre peu de temps à la pensée. Bien sûr, la pensée est une chose qui prend extraordinairement de temps. Ça prend beaucoup de temps. Je veux parler des vitesses ou des lenteurs produites par la pensée. Tout comme un corps a des effets de vitesse et de lenteur suivant les mouvements qu'il entreprend. Et il y a des moments où il est bon pour le corps d'être lent. Il y a même des moments où il est bon pour le corps d'être immobile. Ce n'est pas des rapports de valeur. Et peut-être que la vitesse absolue et une immobilité absolue, ça se rejoint absolument. S'il est vrai que la philosophie de Spinoza procède comme et par un étalement sur une espèce de plan fixe, s'il y a bien cette espèce de plan fixe spinoziste où toute sa philosophie s'inscrit, c'est évident qu'à la limite, l'immobilité absolue et la vitesse absolue ne font plus qu'un. Mais dans le domaine du relatif, des quatre premiers livres, parfois il faut que la pensée produise de la lenteur de son propre développement, et parfois il faut qu'elle aille plus vite, la vitesse relative de son développement relatif à tel ou tel concept, à tel ou tel thème. Or, je disais, si vous regardez l'ensemble alors des quatre premiers livres, il me semble à nouveau, je faisais une autre hypothèse que je veux pas, sur laquelle je ne veux pas trop m'étendre, qui est que dans l'éthique, il y a cette chose insolite que Spinoza appelle des scolies, à côté, en plus, des propositions, démonstrations, corollaires. Il écrit des scolies, c'est-à-dire des espèces d'accompagnements des démonstrations. Et je disais, si vous les lisez même à haute voix, il n'y a pas de raison de traiter un philosophe plus mal qu'on ne traite un poète. Si vous le lisez à haute voix, vous serez immédiatement sensible à ceci, ça. C'est que les Scoli n'ont pas la même tonalité, n'ont pas le même timbre que l'ensemble des propositions et démonstrations. Et que là, le timbre se fait, comment dirais-je, pathos, passion. Et que Spinoza, là, y révèle des espèces d'agressivité, de violence, auxquelles un philosophe aussi sobre, aussi sage, aussi réservé, nous avait pas forcément habitué. Et que il y a une vitesse des Scoli qui est vraiment la vitesse de l'affect, par différence avec la lenteur relative des démonstrations qui est une lenteur du concept. Comme si dans les Scoli des affects étaient projetés, alors que dans les démonstrations, des concepts sont développés. Donc ce ton passionnel, pratique. Or peut-être qu'un des secrets de l'éthique est dans les Scoli. Et j'opposais à ce moment-là l'espèce de chaîne continue des propositions et démonstrations. Continuité qui est celle du concept à la discontinuité des Scoli qui opère comme une espèce de ligne brisée. Et qui est la discontinuité des affects. Bon, supposons, tout ça c'est à vous de... C'est des impressions de lecture. Hein. Comprenez que si j'insiste là-dessus, c'est peut-être parce que la forme, après tout, est tellement adéquate au contenu même de la philosophie, que la manière dont Spinoza procède formellement a déjà quelque chose à nous dire sur les concepts du spinozisme. Et enfin, je fais toujours dans ce sort des vitesses et des lenteurs relatives une dernière remarque. C'est que si je prends uniquement alors l'ordre des démonstrations dans leur développement progressif, l'ordre des démonstrations, il n'y a pas une vitesse relative uniforme. Tantôt ça s'étire et ça se développe, tantôt ça se contracte et ça s'enveloppe plus ou moins. Il y a donc dans la succession des démonstrations des quatre premiers livres, non seulement la grande différence de rythme entre les démonstrations et les Scoli, mais des différences de rythme dans le courant des démonstrations successives. Elles ne vont pas à la même allure. Et là, je voudrais alors retrouver en plein, c'est par là que ce n'est pas seulement des remarques formelles, retrouver en plein, pour finir avec ces remarques sur la vitesse, retrouver en plein le problème de presque le problème de l'ontologie sous quelle forme. Je prends le début de l'éthique. Comment est-ce qu'on peut commencer dans une ontologie? Dans une ontologie du point de vue de l'immanence ou à la lettre, l'être est partout. Partout où il y a de l'être. Les existants, les étants sont dans l'être. Qui nous a parlé des films de l'ontologie dans nos trucs précédents. Par quoi et comment peut-on commencer? Ce problème du commencement de la philosophie qui a traîné dans toute l'histoire de la philosophie et qui semble avoir reçu des réponses très différentes. Par quoi commencer? Certaines manières, là comme ailleurs, suivant l'idée toute faite où l'on se dit que les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, chaque philosophe semble avoir sa réponse. C'est évident que Hegel a une certaine idée sur par quoi et comment commencer en philosophie. Kant en a une autre, Feuerbach en a une autre, et prend à partie Hegel à propos de ça. Ben, si l'on applique ce problème à Spinoza, lui, comment il commence? Par quoi il commence? On semblerait avoir une réponse imposée. Dans une ontologie, on ne peut commencer que par l'être. Oui. Et pourtant, Spinoza, le fait est, ne commence pas par l'être. Ça devient important pour nous, ça sera un problème. Comment se fait-il que dans une ontologie pure, dans une ontologie radicale, on ne commence pas par là où on se serait attendu que le commencement se fasse, à savoir par l'être en tant qu'être. On a vu que Spinoza déterminait l'être en tant qu'être comme substance absolument infinie, et que c'est ça qu'il appelle Dieu. Or, le fait est que Spinoza ne commence pas par la substance absolument infinie, il ne commence pas par Dieu. Et pourtant, c'est comme un proverbe tout fait, hein, de dire que Spinoza commence par Dieu. Il y a même une formule toute faite pour distinguer Descartes et Spinoza. Descartes commence par le moi, Spinoza commence par Dieu. Eh bien, c'est pas vrai. Du moins, ce n'est vrai que d'un livre de Spinoza, et c'est un livre qui, à la lettre, n'est pas de lui. En effet, Spinoza, dans sa jeunesse, faisait déjà, suivant la méthode que je vous ai dite, la méthode des collégiens, faisait des espèces de cours privés, hein, des groupes de type. Et ces cours, on les a sous forme de notes d'auditeurs. Pas exclu que Spinoza ait rédigé certaines de ces notes. Très obscures. Ça, l'étude du manuscrit est très très compliquée, a toute une histoire. Enfin, l'ensemble de ces notes existe sous le titre de « Le cours traité ». Le cours traité. Or, dans le cours traité, le chapitre 1 est ainsi intitulé « Que Dieu est ». Je peux dire à la lettre, le cours traité commence par Dieu. Mais ensuite, pas du tout. Ensuite, pas du tout. Et là, ça pose un problème. Parce que l'on dit très souvent que l'éthique commence par Dieu. En effet, le livre 1 est intitulé « De Deo », de Dieu, au sujet de Dieu. Mais si vous regardez en détail, tout ceci étant des invites pour que vous fassiez très attention à la lettre du texte, si vous regardez en détail, vous verrez que Dieu, dans le livre 1, au niveau des définitions, n'est atteint qu'au niveau de la définition 6, donc il a fallu 5 définitions, et au niveau des démonstrations, n'est atteint que vers 9-10. Proposition 9 et 10. Il a donc fallu 5 définitions préalables et il a fallu 8 propositions démonstrations préalables. Je peux en conclure que, en gros, l'éthique commence par Dieu. Littéralement, à la lettre, elle ne commence pas par Dieu. Et en effet, elle commence par quoi ? Elle commence par le statut des éléments constituants de la substance, à savoir les attributs. Mais bien mieux. Avant l'éthique, Spinoza avait écrit un livre, Le traité de la réforme de l'entendement. Dans ce traité, il ne l'a pas achevé. Pour des raisons mystérieuses dont on pourra parler plus tard, mais enfin là, peu importe. Il ne l'a pas achevé. Or, je lis, parce que j'y attache beaucoup d'importance, vous allez voir, parce que je voudrais soulever certains problèmes de traduction très rapidement. Paragraphe 46. Je lis la traduction qui est exacte, la meilleure traduction du traité de la réforme, c'est la traduction de Coiré dans l'édition Vrin, aux éditions Vrin. Mais ceux qui ont la Pléiade, vous vous contentez de ce que vous pouvez. C'est pas grave. Paragraphe 46. Dans toutes les éditions, le numérotage des paragraphes est le même. Donc. Paragraphe 46. Si par hasard, quelqu'un demande « Pourquoi moi-même ?» Puisque la vérité se manifeste d'elle-même, je n'ai pas tout d'abord et avant tout exposé dans l'ordre dû les vérités de la nature. Relis. Si par hasard quelqu'un demande pourquoi, puisque la vérité se manifeste par elle-même, je n'ai pas tout d'abord et avant tout exposé dans l'ordre dû les vérités de la nature. Je lui réponds. Et là-dessus, une série de trois petits points indiquant une lacune. Je lui réponds, et en même temps je l'exhorte de ne pas rejeter comme fausses les choses que je viens d'exposer à cause de paradoxes qui peut-être se trouvent ça et là. Comprenez? Je dis, c'est quand même marrant, hein? Les éditeurs, ils ne sont pas gênés. Ils ont raison de ne pas être gênés. Que, quand quelque chose ne leur convient pas, ils flanquent une lacune. Là, il y a l'indication d'une lacune qui n'est pas du tout dans le manuscrit. Et c'est très bizarre. Est-ce que vous sentez ce que je veux dire? Supposez un éditeur qui soit persuadé que Spinoza, nerveusement persuadé, que Spinoza doit commencer par l'être, c'est-à-dire par la substance absolument infinie, c'est-à-dire par Dieu. Il rencontre des textes où Spinoza dit le contraire, qu'il ne va pas commencer par Dieu. L'éditeur, à ce moment-là, se trouve devant plusieurs possibilités. Ou bien dire que c'est un moment de la pensée de Spinoza qui n'est pas encore au point. C'est-à-dire que Spinoza n'a pas atteint sa véritable pensée. Ou bien conjecturer une lacune dans le texte qui changerait le sens de la phrase. Ou bien, troisième possibilité, en un sens c'est la meilleure, trafiquer à peine la traduction. Dans ce texte 46, ça je voudrais juste m'étendre sur ce point parce que ça fait partie de la critique interne des textes. Dans ce paragraphe 46, Spinoza nous dit formellement, il y a bien un ordre dû, c'est l'ordre qui commence par Dieu. Mais je ne peux pas le suivre dès le début. C'est une pensée claire. Il y a un ordre dû, un ordre nécessaire. C'est celui qui va de la substance au mode. C'est celui qui va de Dieu aux choses. Mais cet ordre nécessaire, je ne peux pas le suivre dès le début. C'est une pensée très claire. On est tellement persuadé que Spinoza doit le suivre dès le début que quand on rencontre un texte qui ne colle pas, on présuppose une lacune. Ça ne va pas. C'est pas bien. Hein. Paragraphe 49. Je lis, parce que là les éditeurs n'ont pas osé corriger. Je lis. Dès le début donc, fin du paragraphe 49, dès le début donc, il nous faudra veiller principalement à ce que nous arrivions le plus rapidement possible, quanto osius, à ce que nous arrivions le plus rapidement possible à la connaissance de l'être. Là alors, mon cœur bondit de joie, vous comprenez. Il le dit formellement. Il s'agit d'arriver le plus rapidement possible, le plus vite possible, à la position de l'être et à la connaissance de l'être, mais pas dès le début. L'ontologie aura un début. Comme l'être est partout, il faut précisément que l'ontologie ait un début qui soit distinct de l'être lui-même. Si bien que, vous comprenez que ça devient un problème technique pour moi, parce que ce début, ça ne peut pas être quelque chose de plus que l'être, de supérieur à l'être. Il n'y a pas le grand un supérieur à l'être, ça n'existe pas du point de vue d'une ontologie. On l'a vu les autres fois. Qu'est-ce que ça va être ce mystérieux début? Je continue mon recensement du traité. Paragraphe 49, non, ça je viens de le faire. Paragraphe 75. Non, il n'y a rien. Ah oui. Pour nous, au contraire, si nous procédons de la façon aussi peu abstraite que possible, et si nous commençons aussitôt que faire se peut, en latin, aussitôt que faire se peut, quam primum fieri potest. Aussitôt que faire se peut. Si nous commençons, aussitôt que faire se peut, par les premiers éléments, c'est-à-dire par la source et l'origine de la nature. Vous voyez ? Nous commençons par les premiers éléments, c'est-à-dire par la source et l'origine de la nature, la substance absolument infinie, avec tous les attributs. Mais nous ne commençons par là que aussitôt que faire se peut. Bon, il y a bien. On y arrivera le plus vite possible, c'est l'ordre de la vitesse relative. Et enfin, parce que c'est le plus beau cas, paragraphe 99, où là, la traduction est trafiquée. Ce qui est, il me semble, le pire. Voilà ce que dit le texte traduit par Coiré, et les traducteurs là suivent Coiré. Je cite Coiré parce que Coiré était un homme très prodigieux d'une science immense. Je lis la traduction de Coiré. Pour que toutes nos perceptions soient ordonnées et unifiées, il faut que aussi rapidement que faire se peut. On le retrouve là. Il faut que aussi rapidement que faire se peut. Et quand il est traduit, tiret. La raison l'exige. Tiret. Nous recherchions s'il y a un être et aussi quel il est. Vous voyez, la traduction quand il est donne. Il faut que aussi vite que possible. Tiret, la raison l'exige, nous recherchions s'il y a un être. En d'autres termes, il fait porter la raison l'exige sur la nécessité de rechercher s'il y a un être. C'est bizarre pour un homme qui savait le latin admirablement. Car le texte ne dit pas ça du tout. Le texte, je traduis en mauvais français, mais mot à mot, il est requis que, aussi vite que possible, et que la raison l'exige. Vous me direz, c'est pas grand-chose. Je dis, c'est énorme, ça change tout. En latin, quam primum fieri potest et ratio postulat. Aussi vite qu'il est possible, et que la raison l'exige. En d'autres termes, c'est la raison qui exige que nous ne commencions pas par l'être, mais que nous y arrivions le plus vite que possible. Alors pourquoi ça m'importe, ça ? C'est parce que alors, c'est bien cette question, d'accord. Il y a une vitesse relative. C'est cette vitesse relative, le aussi vite que possible, c'est les 10 premières démonstrations de l'éthique, du livre 1. Il va aussi vite que possible. C'est ça la vitesse relative de la pensée. La raison exige qu'il y ait un rythme de la pensée. Vous ne commencerez pas par l'être, vous commencerez par ce qui vous donne accès à l'être. Mais qu'est-ce qui peut me donner accès à l'être ? Alors c'est quelque chose qui n'est pas. C'est pas l'un, on a vu que ça ne pouvait pas être l'un. C'est quoi ? C'est un problème. Je veux tirer ma conclusion. Si c'est vrai que Spinoza, c'est un philosophe pour qui la pensée est tellement productrice de vitesse et de lenteur, et prise elle-même dans un système de vitesse et de lenteur. C'est bizarre, ça. Encore une fois, ça va beaucoup plus loin que nous dire la pensée prend du temps. La pensée prend du temps, Descartes l'aurait dit, je l'ai rappelé la dernière fois, Descartes l'aurait dit, mais la pensée produit des vitesses et des lenteurs, et elle-même est inséparable des vitesses et des lenteurs qu'elle produit. Il y a une vitesse du concept, il y a une lenteur du concept, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, bon, de quoi dit-on vite ou lent d'habitude? C'est très libre ce que je dis là, c'est pour vous donner envie d'aller voir cet auteur. Je ne sais pas si je réussis, peut-être que j'obtiens le contraire. Mais donc, je ne fais pas encore du commentaire lettre. Les gens font parfois, là, comme je viens d'en faire, mais vous me comprenez. De quoi est-ce qu'on dit? Ça va vite, ça va pas vite. Ça se ralentit, ça se précipite, ça s'accélère. On dit ça des corps. On dit ça des corps. Et je vous ai dit déjà, quitte à ne le commenter que plus tard, que Spinoza se fait une conception très extraordinaire des corps, c'est-à-dire une conception vraiment cinétique. En effet, il définit le corps, chaque corps, et bien plus, il en fait dépendre l'individualité du corps. L'individualité du corps, pour lui, c'est de chaque corps. C'est un rapport de vitesse et de lenteur entre éléments. Et j'insistais, entre éléments non formés. Pourquoi? Puisque l'individualité d'un corps, c'est sa forme. Et s'il nous dit la forme du corps, il emploiera lui-même le mot forme en sens, la forme du corps, c'est un rapport de vitesse et de lenteur entre ces éléments. Il faut que les éléments n'aient pas de forme, sinon la définition n'aurait aucun sens. Donc il faut que ce soit des éléments matériels non formés, qui n'ont pas de forme par eux-mêmes. Ce sera leur rapport de vitesse ou de lenteur qui constituera la forme du corps. Mais en eux-mêmes, ces éléments, entre lesquels s'établissent les rapports de vitesse et de lenteur, sont sans forme, non formés. Non formés et informels. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On remet à plus tard. Mais c'est, pour lui, c'est ça un corps. Et je vous disais, une table, eh ben, c'est ça. Bon, pensez à la physique. La physique, elle nous dira, bon, système de molécules en mouvement les unes par rapport aux autres, système d'atomes, c'est le bureau d'Eddington, le bureau du physicien. Bon. Alors, il a cette vision. Encore une fois, ce n'est pas du tout qu'il précède la physique atomique ou électronique, ce n'est pas ça. C'est qu'en tant que philosophe, il a un concept du corps tel que la philosophie produit à ce moment-là une détermination du corps. Que la physique, avec de tout autre moyen, retrouvera ou produira pour son compte. Ça arrive tout le temps, ces trucs-là. Mais donc, c'est très curieux, car ça me fait penser à des textes particulièrement beaux de Spinoza. Vous trouverez par exemple, au début du livre 3 de l'Éthique, où Spinoza lance vraiment des choses qui ressemblent. L'année dernière, j'avais essayé de trouver je n'avais pas trouvé. Un certain rapport entre les concepts d'un philosophe et des espèces de cris de base, de la pensée. Et bien, il y a comme ça, de temps en temps, il y a des cris qui sortent de Spinoza. C'est d'autant plus intéressant qu'encore une fois, ce philosophe qui passe pour une image de sérénité. C'est curieux, quand est-ce qu'il se met à crier? Mais il crie beaucoup justement dans les scoli, ou bien dans les introductions à un livre. Il ne crie pas dans les démonstrations. La démonstration, ce n'est pas un endroit ou un lieu où on peut crier. Et qu'est-ce que c'est les cris de Spinoza? J'en cite un. Il dit, il parle du petit bébé, du somnambule et de l'ivrogne. Hein, le petit bébé, le somnambule, le petit bébé à quatre pattes, le somnambule qui se lève la nuit en dormant et qui va m'assassiner. Et puis l'ivrogne, l'ivrogne qui se lance dans un grand discours. Bon. Et il dit, parfois il est très comique, vous savez, il a l'humour juif, Spinoza. Il dit, oh, finalement, on ne sait pas ce que peut le corps. On ne sait pas ce que peut le corps. Là, il faut, dans votre lecture, quand vous tomberez sur ce genre de phrase chez Spinoza, faut pas penser comme si... D'abord, faut beaucoup rire, c'est des moments comiques, il n'y a pas de raison que la philosophie n'ait pas son comique à elle. On ne sait pas ce que peut le corps. Vous voyez, un bébé là qui rampe, hein. Vous voyez un alcoolique qui vous parle, un type complètement ivre, et puis vous voyez un somnambule qui passe. Là. Oh oui, c'est vrai, on ne sait pas ce que peut le corps. Après tout, ça prépare singulièrement un autre cri qui retentira longtemps après, et qui sera comme la même chose en plus contractée, lorsque Nietzsche lance « L'étonnant, c'est le corps ». Ce qui veut dire quoi? Ce qui est une réaction de certains philosophes qui disent, écoutez, arrêtez avec l'âme, avec la conscience, etc. Vous devriez plutôt essayer de voir un peu d'abord ce que peut le corps. Qu'est-ce que c'est? Vous savez même pas ce que c'est que le corps et vous venez nous parler de l'âme. Alors non, il faut passer. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire là? L'étonnant, c'est le corps, dira l'autre. Et Spinoza dit déjà littéralement, vous ne savez pas encore ce que peut un corps. Ils ont bien une idée pour dire ça. C'est curieux, ils nous proposent un modèle du corps. Évidemment, c'est d'une grande méchanceté pour les autres philosophes qui, encore une fois, n'ont pas cessé de parler de la conscience et de l'âme. Eux, ils disent, et après ça, quand on traite Spinoza de matérialiste, qu'on dit c'est du matérialisme, bien sûr, ça n'est pas à la lettre. Il ne cesse pas, lui aussi, de parler de l'âme. Mais comment il en parle de l'âme? Il en parle d'une drôle de façon, et ça se comprend très bien. Sur l'âme et ses rapports avec le corps, il a une doctrine qui sera connue sous le nom. Le mot n'est pas de lui. Une doctrine qui sera connue sous le nom de parallélisme. Alors, le parallélisme, c'est quoi? Je dis, c'est curieux parce que le mot, il vient pas de lui, il vient de Leibniz, qui s'en sert dans un tout autre contexte, et pourtant ce même mot, il conviendrait très bien à Spinoza. Revenons à sa proposition ontologique de base. Sa proposition ontologique de base, c'est l'être, enfin, elle comporte plusieurs articulations. C'est, premièrement, l'être est substance. Mais substance absolument infinie, ayant, possédant, là je laisse un mot très vague, tous les attributs. Substance absolue possédant tous les attributs infinis. Il se trouve, pour des raisons qu'on verra plus tard, que nous qui ne sommes pas la substance absolue, nous ne connaissons que deux attributs. Nous n'avons connaissance que de deux attributs. L'étendue et la pensée. Et en effet, ce sont des attributs de Dieu. Il y a beaucoup de pourquoi là-dedans, mais ce n'est pas ce que je traite pour le moment, on verra plus tard. Hein. Pourquoi l'étendue et la pensée sont-ils des attributs de Dieu, tout ça, je vous en informe comme ça, mais ce n'est pas ce que je traite aujourd'hui. Et ça n'empêche pas que la substance absolue a une infinité d'attributs, elle n'en a pas que deux, elle. Nous n'en connaissons que deux. Mais elle en a une infinité. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes pas substance. Pourquoi? Là, on va retomber en plein dans un problème que j'ai déjà essayé d'agiter les dernières fois. Si nous aussi, nous étions substance, la substance se dirait en deux sens, au moins. Elle se dirait en plusieurs sens. Elle se dirait en un premier sens, Dieu, la substance infinie. Elle se dirait en un second sens, moi, être fini. En effet, au premier sens, Dieu, la substance, ce serait quelque chose comme ce qui existe par soi-même. Mais si j'étais une substance, ce serait en un sens très différent, puisque j'existe pas par moi-même, étant une créature finie, étant un être fini. J'existe, supposons, par Dieu. Je n'existe pas par moi-même. Donc je ne suis pas substance au même sens que Dieu est substance. Troisième sens, si mon corps lui-même est substance, c'est encore en un autre sens. Puisque le corps est divisible tandis que l'âme est censée ne pas l'être, bon, etc. En d'autres termes, comprenez, si je suis substance, c'est tout simple. Je ne suis substance qu'en un sens du mot substance, dès lors, le mot substance a plusieurs sens, en d'autres termes, le mot substance est équivoque. Il est forcément équivoque. Substance se dira par analogie. Si vous vous rappelez les notions que j'ai essayé vaguement de définir les autres fois, substance se dira par analogie, puisque l'analogie, c'est le statut du concept en tant qu'il a plusieurs sens. C'est l'équivocité. Substance sera un mot équivoque ayant plusieurs sens, ces sens auront des rapports d'analogie. De même que Dieu n'a besoin que de soi pour exister, premier sens de substance, moi, à être fini, je n'ai besoin que de Dieu pour exister. Deuxième sens. Il y a analogie entre les sens. À ce moment-là, substance est un mot équivoque. Vous voyez ? Et en effet, Descartes le dit explicitement. Descartes reste au moins thomiste, quelles que soient les ruptures de Descartes avec Saint-Thomas. Il reste absolument thomiste sur un point fondamental, à savoir, l'être n'est pas univoque. En d'autres termes, il y a plusieurs sens du mot substance, et comme dit Descartes, qui reprend là le vocabulaire du Moyen-Âge, la substance se dit par analogie. Vous voyez ce que ces termes mystérieux veulent dire ? En fait, ça veut dire des choses très rigoureuses. On a vu, et je ne reviens pas là-dessus, qu'au contraire, Spinoza développe, déploie le plan fixe de l'univocité de l'être, de l'être univoque. Si l'être est substance, c'est la substance absolument infinie. Et il n'y a rien d'autre que cette substance. Cette substance est la seule, en d'autres termes, univocité de la substance. Pas d'autre substance que l'être absolument infini, c'est-à-dire pas d'autre substance que l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être est substance. Ça implique immédiatement que rien d'autre ne soit substance. Rien d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'être ? On l'a vu les dernières fois. Et c'est peut-être ça, le point de départ de l'ontologie qu'on cherchait. Donc on va avoir peut-être une réponse possible à notre question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'être ? Que l'être en tant qu'être, du point de vue d'une ontologie même. On l'a vu depuis le début. Ce qu'il y a d'autre que l'être en tant qu'être, du point de vue de l'ontologie même, c'est ce dont l'être se dit, c'est-à-dire l'étant, l'existant. L'être se dit de ce qui est, de l'étant, de l'existant. Vous voyez la conséquence immédiate, ce qui est, l'étant, n'est pas substance. Évidemment, c'est scandaleux, scandaleux d'un certain point de vue, pour Descartes, pour toute la pensée chrétienne, pour toute la pensée de la création. Ce qui est n'est pas substance. Alors c'est quoi ? Bon, on n'a même plus le choix. ce qui est n'est ni substance ni attribut, puisque la substance c'est l'être, les attributs c'est les éléments de l'être. Tous les attributs sont égaux. Il n'y aura pas de supériorité d'un attribut sur un autre. Et en effet, là, vous voyez bien que Spinoza creuse au maximum son opposition à toute une tradition philosophique, c'est la tradition de l'un supérieur à l'être. Ce qu'il va faire, c'est la philosophie, je crois que c'est presque une caractéristique de Spinoza, la philosophie la plus anti-hiérarchique qu'on ait jamais faite. Il y a peu de philosophes qui, d'une manière ou d'une autre, n'aient ou bien explicitement dit, ou bien suggéré au moins, mais généralement explicitement dit, que l'âme valait mieux que le corps, que la pensée valait mieux que l'étendue. Et tout ça, ça fait partie des niveaux de l'être à partir de l'un. C'est inséparable, la différence hiérarchique est inséparable des théories ou des conceptions de l'émanation, de la cause émanative. Je vous rappelle, les effets sortent de la cause. Il y a un ordre hiérarchique de la cause à l'effet. L'un est supérieur à l'être. L'être, à son tour, est supérieur à l'âme. L'âme est supérieure au corps. C'est une descente. Le monde de Spinoza est très curieux, en effet. C'est vraiment le monde le plus anti-hiérarchique qu'ait jamais produit la philosophie. En effet, s'il y a univocité de l'être, si c'est l'un qui dépend de l'être et pas l'être qui dépend de l'un, qui découle de l'être, s'il n'y a que l'être et ce dont l'être se dit, et si ce dont l'être se dit est dans l'être, si l'être comprend ce dont il se dit, le contient, point de vue de l'immanence, d'une certaine manière qu'il faudra arriver à déterminer, tous les êtres sont égaux. Simplement, je laisse en blanc, tous les êtres sont égaux en tant que quoi? De quel point de vue? En tant que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une pierre et un sage, un cochon et un philosophe, ça se vaut. Il suffit de dire en tant que quoi? Bien sûr, ça se vaut. En tant qu'existant, ça se vaut. Ça se vaut. Et là, Spinoza ne renoncera jamais à ça. Il le dira formellement. Le sage et le dément, il y a bien un point de vue, un en tant que, où l'on voit de toute évidence que l'un n'est pas supérieur à l'autre. Très curieux, très étonnant, ça, ce truc-là. J'essaierai de l'expliquer. Hein. Là, je ne prétends pas l'expliquer encore. Hein. Alors, bon, l'être univoque, c'est forcément un être égal. C'est pas forcément que tous les étants se valent, mais c'est que l'être se dit également de tous les étants. L'être se dira également de tout ce qui est. Que ce soit un caillou ou un philosophe, de toute manière, l'être n'a qu'un seul sens. Une belle idée, hein. Simplement, il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut construire le paysage où elle fonctionne, l'idée. Et ça, il sait le faire, Spinoza. Et l'être univoque, c'est forcément un être égal. Jamais on n'a poussé plus loin la critique de toute hiérarchie. L'étendue est comme la pensée, c'est un attribut de la substance. Et vous ne pourrez pas dire qu'un attribut est supérieur à l'autre. Égalité parfaite de tous les attributs. Alors, simplement, s'il y a égalité parfaite, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que c'est le parallélisme? Nous sommes des modes. Nous sommes des modes. Nous ne sommes pas des substances. C'est-à-dire, nous sommes des manières d'être. Nous sommes modes, ça veut dire manière d'être. Nous sommes des manières d'être, nous sommes des modes. En d'autres termes, l'être se dit de quoi? Il se dit de l'étant, mais qu'est-ce que l'étant? L'étant, c'est la manière d'être. Vous êtes des manières d'être. C'est bien ça, vous n'êtes pas des personnes. Vous êtes des manières d'être. Vous êtes des modes. Est-ce que ça veut dire, comme Leibniz fait semblant de le croire, comme beaucoup de commentateurs ont dit, que finalement Spinoza ne croyait pas à l'individualité? Au contraire, je crois qu'il y a peu d'auteurs qui aient autant cru et saisit l'individualité. Mais on a l'individualité d'une manière d'être. Et vous valez ce que vaut votre manière d'être. Oh, comme c'est rigolo tout ça. Alors, je suis une manière d'être. Ben oui, je suis une manière d'être. Ça veut dire une manière de l'être, un mode de l'être. Une manière d'être, c'est un mode de l'être. Je ne suis pas une substance. Vous comprenez, une substance, c'est une personne. Eh ben non, je ne suis pas une substance. Je suis une manière d'être. C'est peut-être bien mieux, on ne sait pas. Alors forcément, je suis dans l'être, puisque je suis une manière d'être. Forcément, il y a immanence. Il y a immanence de toutes les manières à l'être. Il est en train de faire une pensée, mais où on se dit à la fois... Ben évidemment, on se dit, si vous avez le goût de ça, on se dit, ben évidemment, il a raison. Mais c'est tout biscornu, cette histoire, c'est tout étonnant. Il nous introduit dans un truc tout à fait bizarre. Essayez de vous penser un instant comme ça. Il faut vous le répéter beaucoup. Non, non, je ne suis pas une substance, je suis une manière d'être. Hein. Ouais, tiens. Ah bon, mais une manière de quoi? Ben oui, une manière de l'être. Tiens. Alors ça dure, une manière d'être, ça a une personnalité, une individualité. Ça n'a peut-être pas de personnalité, ça a une très forte individualité, une manière de l'être. Hein. Une manière d'être. Alors ça engage à quoi? Ben, ça veut dire que je suis dedans. Je suis dans quoi? Je suis dans l'être dont je suis la manière. Et l'autre? Ben, l'autre aussi, il est dans l'être dont il est la manière. Ah mais alors si on se tape dessus, c'est deux manières d'être qui se battent. Oui, c'est deux manières d'être qui se battent. Pourquoi? Sans doute qu'elles ne sont pas incompatibles. Pourquoi? Peut-être qu'il y a incompatibilité des vitesses et des lenteurs. Tiens, pourquoi je ramène vitesse-lenteur? Parce que manière d'être ou manière de l'être, mode d'être, c'est ça. C'est ça. C'est un rapport de vitesse et de lenteur. C'est des rapports de vitesse et de lenteur sur le plan fixe de la substance absolument infinie. Bon, alors, je suis une manière d'être, d'accord, on avance un peu. Hein. Puis je ne suis rien d'autre. Je suis des rapports, je suis un rapport de vitesse et de lenteur entre des molécules qui me composent. Quel monde! Vous pensez que, évidemment, tout croyant, tout chrétien bondissait quand il lisait du Spinoza. Il se disait, mais quoi c'est? Même tout juif, je ne sais pas, tout homme de religion. Lui, il continuait, il s'en faisait pas, quoi. Il continuait. Alors bon, quelle manière de l'être je suis? Quelle manière d'être je suis si je suis une manière d'être? Ben, il dira, c'est pas compliqué, voilà. Comprenez. J'ai un corps et une âme. Là, il semble retomber un peu sur les pieds de tout le monde. J'ai un corps et une âme. Enfin, on s'y retrouve. Ah, enfin, quelque chose, il dit comme tout le monde. Ça va pas durer longtemps. Il dit, c'est très vrai ça, j'ai un corps et une âme, et même j'ai que ça. Et d'un certain côté, c'est embêtant, il dit. C'est embêtant, puisqu'il y a une infinité d'attributs de la substance absolue. Et moi, j'ai simplement un corps et une âme. Et en effet, qu'est-ce que c'est un corps? Un corps, c'est un mode de l'étendue. Une âme, c'est un mode de la pensée. Peut-être est-ce qu'il y a déjà une réponse ou une première réponse à la question « Pourquoi est-ce que de tous les attributs de la substance absolue, je n'en connais que deux ?» Ça, c'est un fait. C'est le fait de ma limitation. Je suis ainsi fait. Vous me direz « Ah, fait, si tu es fait, tu es une substance ?» Non, je suis fait comme une manière. Eh bien, je suis fait à la manière suivante. Corps et âme, c'est-à-dire, je suis à la fois un mode de l'étendue par mon corps et un mode de la pensée par mon âme. C'est-à-dire, mon âme, c'est une manière de penser, mon corps, c'est une manière d'étendre, d'être étendu. Alors, dans les attributs que je ne connais pas, dont je ne peux même pas dire le nom, puisqu'il y en a une infinité, il y a d'autres manières d'être. Là, il y a tout le domaine d'une large science-fiction spinoziste, ce qui se passe dans les autres attributs qu'on ne connaît pas. Mais d'accord, lui, il est très discret là-dessus. Il dit, ben ça, on ne peut rien dire. Quoi. Il y a un fait de la limitation de la connaissance. Je ne connais que deux attributs parce que moi-même, je suis un mode de l'étendue et de la pensée, un point c'est tout. Mais les attributs sont strictement égaux. Donc, c'est par là, vous voyez, que à peine il a dit « comme tout le monde, j'ai un corps et une âme », il a déjà dit autre chose que tout le monde. Je suis le double mode des deux attributs que je connais. Je suis un corps, je suis une âme. Mais tous les attributs sont égaux. Aucune supériorité d'un attribut sur l'autre. Donc jamais on ne pourra dire « mon corps, c'est moins bien que mon âme ». Non. Bien plus, c'est strictement pareil. C'est la même manière d'être. Mon corps et mon âme sont la même manière d'être. Pourquoi ? Là, je vais trop vite, mais je précise. Là, vous pourriez avoir, alors en un éclair, la vision de la pensée la plus profonde de Spinoza, une des pensées les plus profondes de Spinoza. Vous allez savoir que, oui, comment se distingue mon corps et mon âme ? Ils se distinguent par l'attribut qu'ils impliquent. Le corps est mode de l'étendue, l'âme est mode de la pensée. C'est ça la distinction de l'âme et du corps. Ils se distinguent par l'attribut qu'ils impliquent. Ce sont deux modes, deux manières d'être, d'attributs différents. Mais les attributs sont strictement égaux. Si bien qu'au moment même où je dis j'ai une âme et j'ai un corps qui se distingue par l'attribut auquel il renvoie, je dis aussi bien, je suis un. Pourquoi je suis un ? Parce que je suis un par la substance unique. Puisque tous les attributs égaux sont attributs d'une seule et même substance absolument infinie. Donc, je suis deux modes de deux attributs, corps, mode de l'étendue, âme, mode de la pensée, mais je suis une seule et même modification de la substance. Je suis une seule et même modification de la substance qui s'exprime dans deux attributs, dans l'attribut étendu comme corps, dans l'attribut pensée comme âme. Je suis deux par les attributs que j'implique, je suis un par la substance qui m'enveloppe. En d'autres termes, je suis une modification de la substance en tant qu'exprimée, c'est-à-dire une manière d'être de l'être. Je suis une modification de la substance, c'est-à-dire une manière d'être de l'être, en tant que cette modification est exprimée comme corps dans l'attribut étendu, et exprimé comme âme dans l'attribut pensée. Si bien que l'âme et le corps, c'est la même chose. C'est une seule et même chose. Non pas une substance, c'est une seule et même manière ou modification rapportée à deux attributs distincts. Qui donc apparaît comme corps et est corps dans l'attribut étendu et âme dans l'attribut pensée. Quelle curieuse vision. Alors, ça explique tout, ça supprime tout privilège possible de l'âme sur le corps, ou inversement. Et là, en un sens, c'est la première fois que l'on peut comprendre en quoi une éthique, c'est pas du tout la même chose qu'une morale. C'est pas du tout la même chose qu'une morale, forcément, pour une raison très simple. Il y a quelque chose qui appartient fondamentalement à la morale. C'est l'idée d'une raison inverse, d'une règle inverse dans le rapport de l'âme et du corps. forcément, puisque la morale, elle est inséparable d'une espèce de hiérarchie, ne serait-ce que la hiérarchie des valeurs. Il faut que quelque chose... Il n'y a pas de morale si quelque chose ne vaut pas mieux qu'autre chose. Il n'y a pas de morale de tous vaut. Il n'y a pas de morale de tout est égal. Bizarrement, je dirais, il y a une éthique de tout est égal. Et ça, on peut le voir, on le verra bien après. Je dis, il n'y a pas de morale de tous vaut, tout est égal. Il faut une hiérarchie des valeurs pour la morale. Et l'expression la plus simple de la hiérarchie des valeurs, c'est l'espèce de tension, de rapport inversement proportionnel. À savoir, si le corps agit, c'est l'âme qui pâtit. Et si l'âme agit, c'est le corps qui pâtit. L'un agit sur l'autre et l'un pâtit quand l'autre agit. Si bien que l'effort du sage, c'est faire obéir le corps. Ça va tellement loin, ça, que c'est presque un axiome de tout, de toutes les morales de l'époque au XVIIe siècle. Par exemple, Descartes, il écrit un gros livre qui s'appelle Le traité des passions. Et le traité des passions commence par l'affirmation suivante. Quand le corps agit, c'est l'âme qui a une passion, qui pâtit. Quand l'âme agit, c'est le corps qui a une passion, qui pâtit. Comprenez qu'au point où on en est avec Spinoza, c'est inintelligible cette proposition. Si je suis une manière d'être, qui s'exprime également comme manière de l'étendue et comme manière de la pensée, c'est-à-dire comme corps et comme âme, ou bien mon corps et mon âme pâtissent également, ou bien ils agissent également. Jamais on n'a mieux soudé le destin de l'homme au corps. Si mon corps est rapide, avec toute l'immense de rapidité, puisque ça peut être une rapidité purement intérieure, c'est une rapidité, on l'a vu, moléculaire. C'est une vitesse moléculaire. Si mon corps est rapide, mon âme est rapide. Si mon corps est lent, mon âme est lente. Et peut-être il est bon tantôt que mon âme soit lente, tantôt rapide. Mais en tout cas, l'un ira avec l'autre, mon âme ne sera pas rapide ou lente sans que mon corps aussi soit lent ou rapide, soit rapide ou lent. En d'autres termes, vous aurez toujours les deux à la fois. Vous ne pourrez jamais jouer de votre âme sur votre corps et de votre corps sur votre âme. Jamais. L'un et l'autre sont la même manière exprimée dans deux attributs. Donc, renoncez à parier sur l'un contre l'autre. Pas la peine d'essayer, ça ne marchera jamais comme ça. Et alors j'en reviens à ceci. D'où vient ce cri ? L'étonnant, c'est le corps. Qui a bien l'air de démentir le parallélisme. Vous voyez pourquoi ça s'appelle le parallélisme ? En effet, deux modes d'attributs différents, corps de l'étendue, âme dans la pensée, deux corps d'attributs différents, les attributs sont strictement indépendants et égaux, donc parallèles, et c'est la même modification qui s'exprime dans un mode et dans l'autre. Bon. Mais alors, comment est-ce qu'il peut nous dire l'étonnant, c'est le corps ? Qui semble ériger un modèle du corps. Vous ne savez même pas ce que peut un corps. Qu'est-ce qu'il peut ? Vous ne savez même pas ça. On ne sait pas. En effet. Les choses prodigieuses qu'un bébé, un alcoolique ou un somnambule peuvent faire, quand leur raison est assoupie, quand leur conscience est endormie, vous savez même pas ce que peut un corps. Ça va pas avec tout ce qui précède, si ça va évidemment très bien. S'il est en train de nous dire, vous voyez, il est en train de nous dire quelque chose de très important, il est en train de nous dire, le corps dépasse la connaissance que vous croyez en avoir. Votre corps dépasse infiniment la connaissance que vous croyez en avoir, évidemment, puisque vous ne savez même pas que le corps n'est qu'une manière d'être de l'étendue. qu'à titre de manière d'être, de l'étendue, il est constitué par toutes sortes de rapports de vitesse et de lenteur transformables les uns dans les autres. Et vous savez rien de tout ça, on sait rien de tout ça, dit-il. On peut le dire encore aujourd'hui qu'on sait rien de tout ça. On fait des progrès. C'est curieux, mais je suis frappé que la biologie actuelle va tellement dans un certain spinozisme, mais ça on verra plus tard. Eh ben, il dit, donc, votre corps dépasse la connaissance que vous en avez. Et de même, c'est ça qu'il faut ajouter, et de même, essayons, puisqu'il y a parallélisme, puisque le corps et l'âme, c'est la même chose. Eh bien, de même, votre âme dépasse infiniment la conscience que vous en avez. Tout ça, c'est dirigé tout droit contre Descartes, évidemment. De même que votre corps, mais il fallait passer par le corps pour comprendre ce qu'il voulait dire. D'où la phrase, l'étonnant, c'est le corps. On ne sait même pas ce que peut un corps. Vous voyez, ce qu'il veut dire complètement, c'est de même que votre corps dépasse la connaissance que vous en avez, votre âme et votre pensée dépassent la conscience que vous en avez. Si bien que la tâche de la philosophie comme éthique, ce sera quoi ? Ce sera accéder à cette connaissance de l'âme et à cette conscience du corps. Non, zut, hein. À cette connaissance du corps et à cette conscience de l'âme qui dépasse la connaissance dite naturelle que nous avons de notre corps et la conscience naturelle que nous avons de notre âme. Il faudra aller jusqu'à découvrir cet inconscient de la pensée et cet inconnu du corps. Et les deux ne font qu'un. L'inconnu du corps...